J'ai trois textes à vous lire ce matin. Le premier, je vais prendre Ésaïe en même temps. Je ne sais pas si je les ai donnés dans l'ordre, en fait. Voilà, Ésaïe 52, versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. La paix, du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut, qui dit à Sion, Dieu règne. C'est la voix de tes sentinelles. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Éclatez ensemble en cris de triomphe, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. En deuxième, je vais prendre l'Épître aux Hébreux. Je crois que je fais exactement l'inverse de ce que j'ai donné. Et je terminerai avec Jean. C'est des blagues, le jour de Noël. C'est le chapitre 1, les versets 1 à 6. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges. Ah non, ça s'arrête là. D'accord, pardon. Et enfin, l'évangile de Jean, au chapitre 1. Les versets 1 à 18. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin. Rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Jusqu'ici, la lecture de la parole. choses. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous étudient ce livre le jeudi en réunion de prière. C'est le seul livre de la Bible qui commence par le mot Dieu. Nous sommes immédiatement mis en face du fait extraordinaire que Dieu, qui avait parlé autrefois au Père d'Israël par des prophètes, a maintenant parlé dans sa plénitude et de manière définitive, une fois pour toutes, dans son Fils. Quand le Seigneur Jésus est venu accomplir la rédemption, Dieu nous a fait connaître toutes ses pensées. Il n'a pas simplement parlé par lui comme s'il était un porte-parole. Il a parlé en lui. Cette distinction est importante parce qu'elle préserve d'emblée le caractère unique de notre Seigneur. C'est-à-dire que quand le Fils parlait, c'était Dieu qui parlait. Pour la simple raison que le Fils était Dieu. Ayant mentionné le Fils, le Saint-Esprit se met ensuite à déployer sa gloire. Non seulement la gloire qui est la sienne, essentiellement comme Dieu et comme Créateur, mais aussi celle qui est la sienne en raison de l'œuvre qu'il est venu accomplir, cette œuvre de la rédemption, cette œuvre du salut. D'un côté, il est l'héritier, non seulement du trône de David, mais de toutes choses, et cette expression recouvre vraiment toutes choses, à la fois ce qui est dans les cieux, et sur la terre. D'un autre côté, quand les mondes ont été faits, c'est lui qui les a faits, c'est ce que nous dit ce texte. Dieu a effectivement créé, on lit ça dans les tout premiers versets de la Genèse. Mais quand on distingue les personnes divines, comme ici dans ce passage d'Hébreux, la création n'est pas attribuée au Père mais au Fils. Le Fils que nous connaissons comme notre précieux Seigneur Jésus a été l'acteur tout-puissant des scènes de la création dont la splendeur est inconcevable. Et c'est logique puisque Dieu crée par sa parole et que Jésus est la parole. Le verset 3 de cette même épître aux Hébreux nous place devant trois choses qui le concernent. D'abord, nous avons ce qu'il est. Et je trouve cette expression vraiment très belle. Jésus est le resplendissement de la gloire de Dieu. Et l'expression intacte de tout ce que Dieu est. C'est une autre façon de le dire. Deuxièmement, il nous est dit ce qu'il a fait. Par lui-même, il a accompli l'œuvre qui fait la purification des péchés du monde entier, de tous les âges, de tous les temps. Comment il l'a fait, ça n'est pas dit sur le moment. On le sait. On sait que ça a été par la mort de la croix, mais ce n'est pas dit dans ce passage-là. Et troisièmement, il nous est dit où il est. Et c'est intéressant aussi quand on en est comme ce matin à contempler le Seigneur. Jésus est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est-à-dire qu'il est assis à la place du pouvoir suprême, là où tout est administré. Combien il est merveilleux que ces trois choses aillent ensemble. L'efficacité de l'œuvre que Jésus est venu accomplir dépendait de ce qu'il était et de qui il était. Tandis que la preuve et la démonstration de l'efficacité de cette œuvre ressortent du lieu où il se trouve après. Par le fait qu'il est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est la preuve, quelque part, du fait que l'œuvre a été efficace. Nous trouvons aussi dans ce verset 3, le fait merveilleux que le Fils est le soutien de toutes choses. Le verset qui précède nous le place comme créateur de toutes choses et comme héritier de toutes choses. Maintenant, nous découvrons qu'il soutient et qu'il maintient toutes choses par la parole de sa puissance ou par la puissance de sa parole. Toutes les lois de l'univers que nous connaissons et toutes celles que nous ne connaissons pas, tout ça est soutenu par sa parole. Alors, je reprends brièvement, parce que dans quelques versets, il y a beaucoup de choses. Le Fils est le Créateur, le soutien et l'héritier de toutes choses. Il est l'expression exacte de tout ce que Dieu est, l'empreinte de sa substance, parce qu'il est Dieu lui-même. Et étant cette empreinte, il s'est avancé pour être, d'une part, le divin porte-parole et d'autre part, le Rédempteur. Et l'auteur, comme pour prouver finalement ce qu'il est est en train de dire nous le met ensuite en contraste avec les anges. Pas juste pour une courte allusion, hein. Le thème est développé longuement et c'est pour ça que j'avais continué le texte, parce qu'en fait c'est la suite. Jusqu'à la fin du chapitre, il développe ce contraste qui existe entre Jésus et les anges. Un contraste à tous égards. Tout ce merveilleux déploiement de l'excellence de notre Sauveur précieux a pour but que nous soyons marqués par la grandeur de celui en qui Dieu nous a parlé. Et voilà, je crois que nous tous qui sommes là, on n'a pas forcément besoin de réentendre des vérités qu'on connaît, mais peut-être on a besoin de les réentendre juste pour réapprendre à admirer, à adorer, à nous émerveiller, à contempler la grandeur de celui en qui Dieu nous a parlé. Notre Seigneur Jésus est ainsi venu nous apporter la révélation divine complète. Et c'est justement cette révélation divine et la gloire qui est attribuée au Christ qui est le sujet de l'évangile de Jean, le texte que j'ai lu en dernier, dans laquelle ces choses vont être encore un petit peu plus détaillées, en tout cas différemment. Et c'est vrai que l'évangile de Jean, on s'en aperçoit bien quand on lit les quatre évangiles, hein, il a vraiment un caractère particulier. Déjà, il ne nous présente pas la naissance du Christ dans ce monde, envisagé comme fils de David. Il ne nous fait pas non plus sa généalogie depuis Adam pour faire ressortir son titre de fils de l'homme. Non, Jean ne nous décrit ni sa naissance, ni le commencement de son ministère d'ailleurs. Mais il nous parle de son existence avant le commencement de tout ce qui a une existence en fait. Au commencement était la parole. En un mot, c'est la gloire de la personne de Jésus, le Fils de Dieu. L'évangile du disciple bien-aimé nous fait connaître ce que Dieu est, ce que le Seigneur est, en nous révélant en même temps que nous avons nous-mêmes, qui croyons en lui, part à toutes les bénédictions qui découlent de ce qu'il est. Et déjà, ce premier chapitre constate qu'il était avant toute chose. Et c'est comme ça que le texte grec le dit, il est. Ça se passe de commentaires à la limite. C'est comme le « je suis » de l'Ancien Testament. Au commencement, il était. Si nous retournons en arrière, autant que nous pouvons le faire par notre esprit, aussi loin que nous puissions aller, et que nous essayons d'imaginer le monde avant la création, eh bien, il est déjà là. C'est l'idée, je crois, la plus parfaite que nous puissions nous faire de l'existence de Dieu. Il est. Le Fils unique qui fait connaître le Père, voilà le résumé de cet évangile. Et rien que ce premier verset, on pourrait empeser chaque terme, on le présente comme la parole, une personne qui est éternelle et distincte de Dieu tout en étant Dieu. Et qui, aussi loin qu'on peut remonter par la pensée, était. Mais cette parole créatrice, qui est l'unique source de la vie et de la lumière, ne s'est pas adressée en nous, à nous du haut du ciel. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable à Noël. Cette parole est venue dans le monde. Cette parole s'est assujettie à nos limites de l'espace et du temps pour venir nous parler à nous, pour qu'on entende. Ça, c'est vraiment le mystère de l'incarnation, la parole qui devient chair. Et elle n'est pas non plus venue comme un messager rapide, hein. Un fax, un télégramme, qui s'en retourne aussitôt à celui qui l'a envoyé. Non, le texte continue en nous disant « elle a habité ». Littéralement, le mot, c'est « elle a dressé sa tente ». Jésus a dressé sa tente parmi nous, au milieu de nous, sans pour autant cesser d'être dans le sein du Père. Ça aussi, c'est mystérieux, on ne va pas chercher à comprendre. Tout ce que Dieu est dans sa nature même, amour et lumière, grâce pour le cœur et vérité, pour la conscience du pécheur, tout ça s'est approché de nous et a brillé dans cette personne adorable. Mais, puisqu'il y a un mais, les ténèbres morales de l'homme n'ont pas compris cette vraie lumière. Le monde n'a pas connu ou reconnu son Créateur. Les siens n'ont pas reçu leur Messie. grand but de ces versets, c'est donc aussi d'établir la gloire de Christ en tant que personne divine dans sa nature, un peu comme dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est vrai qu'en quelques mots, le Saint-Esprit nous présente là la gloire divine du Seigneur. La parole est une personne éternelle, distincte dans la Trinité, une personne divine, une personne éternellement distincte. Et mettre en doute la divinité du Fils revient à saper finalement le fondement sur lequel repose toute bénédiction pour l'homme. C'est pour ça que Jean insiste. Des fois, on se dit quand même, on a compris, il n'y a pas besoin peut-être de nous faire 20 versets là-dessus. Mais si, il y a besoin, parce que si on enlève ça, si on enlève la divinité du Fils, il n'y a plus de bénédiction. Peu importe les systèmes religieux élaborés que construisent les hommes, ou leurs prétentions, s'ils ne bâtissent pas sur ce fondement-là, il n'y a rien qui tient. Et après la déclaration de la gloire de cette parole comme personne divine, l'Esprit nous fait passer dans ce texte de l'éternité dans le temps. Et nous découvrons les deux grands moyens au travers desquels Dieu a été révélé par la parole. Premièrement, c'est la création, nous l'avons vu. Et deuxièmement, c'est l'incarnation. Voilà les deux lieux où la parole se montre, se révèle. Alors dans l'hébreu, on avait les mondes ont été faits par lui. Et ici, on a la version négative. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Toute chose grande et petite, animée, inanimée, spirituelle, matérielle, tout ce qui existe a reçu existence par la parole. Et si la création existe, c'est non seulement pour prouver qu'il y a un créateur, mais aussi pour exprimer dans sa mesure le créateur. C'est ce que dit Paul hein, quand il dit « Dieu se voit dans les œuvres de la création ». On est censé discerner là quelque chose du Créateur. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Voilà un autre verset qui le dit. C'est dans le psaume 19. Et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Un jour, on proclame la parole à l'autre jour et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Voilà ce verset qui nous parle de tout ce qui a reçu existence par la parole. Et ce qui suit nous dit ce qui est dans la parole. Et il le dit de manière très simple, en elle était la vie. Et avec cette affirmation, nous passons de la relation de la parole avec l'univers créé à sa relation avec l'humanité. La vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur peut dire, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et là, pour le coup, la lumière de la nature ne suffit pas à révéler le cœur de Dieu. La lumière de la raison non plus, d'ailleurs, hein, on a ce fameux siècle des lumières. La lumière de la raison ne peut pas trouver Dieu par ses recherches, même si la raison est lumineuse partout. On ne va pas dire le contraire. Seule la lumière de la vie dans la parole, qui est devenue chère, seule celle-là pour révéler Dieu. Voilà comment Dieu a présenté la lumière à l'homme dans ce monde. Non seulement il donne cette lumière, mais il, dans sa pédagogie, il envoie même un précurseur pour attirer notre attention sur le fait qu'il va y avoir un événement et qu'il faut se concentrer. Jean-Baptiste, qui est ici vu comme envoyé de Dieu, comme témoin de ce qui arrive et qui est nouveau, la lumière. Et on voit d'ailleurs que si Dieu envoie un précurseur, il veille soigneusement sur la gloire de Christ. Rien ne peut entacher la gloire de Christ. Malgré la grandeur de Jean, il n'y en a qu'un seul qui est la lumière. La lumière qui avait un double effet, hein, celle de démasquer l'homme et de révéler Dieu. C'est vrai que le Seigneur, du temps de son ministère terrestre, passait de lieu en lieu, faisait du bien, guérissait les malades, etc. Mais le motif de tout ce qu'il accomplissait, c'était de faire connaître Dieu, de le révéler. Il n'ouvrait pas simplement les yeux des aveugles juste pour guérir la cécité. Mais il le faisait pour faire connaître l'amour de Dieu, en relation avec les besoins de l'homme. Et ça aussi, c'est important, hein. À se souvenir pour nous tous qui parfois nous démenons dans des œuvres pour les autres, et c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut savoir pourquoi on le fait. révéler l'amour de Dieu, partager cet amour de Dieu, et pas juste nourrir les pauvres, qui est bien en soi. Mais la différence dans le fait que nous sommes des enfants de Dieu, c'est que nous avons à cœur de faire connaître l'amour du Christ. Alors l'effet produit par cette lumière sur l'homme, quand il est laissé à lui-même, malheureusement nous l'avons vu, les siens ne l'ont pas reçu, le monde ne l'a pas connu. La lumière révèle que l'homme est non seulement totalement insensible par ses propres forces à ce qui est bon et parfait, c'est triste, mais il faut le dire quand même, mais il est même absolument opposé à celui en qui cette bonté est manifestée. Et en fait, ce texte nous rappelle, voilà, de manière aussi assez discrète, que la condition de l'homme abandonné à lui-même est désespérée, en fait. Et c'est toute la beauté, finalement, de cette œuvre, c'est que dans sa grâce souveraine, Dieu, qui n'a pas besoin de nous, ne laisse pas l'homme entièrement à lui-même. Il aurait pu dire, oh. Non, il opère en grâce dans l'homme, avec pour conséquence que certains reçoivent le Christ qui croit en son nom, et à cela il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils vont constituer une nouvelle race, non par descendance naturelle, non par le sang, ni par leurs propres efforts, mais par la volonté de Dieu. C'est une vie nouvelle de Dieu. Voilà, 13, le premier verset qui expose les gloires de la personne de Christ, qui est la parole, qui est créateur, qui est la lumière de la vie. Et ensuite, nous apprenons comment cette personne est venue dans le monde pour apporter la lumière aux hommes. Celui qui, au commencement, était la parole, devient chair. Il est venu dans le temps, dans notre temps. Il est venu en s'incarnant. Et trois des effets les plus remarquables de cette incarnation sont placés devant nous. Premièrement, la révélation des relations éternelles entre les personnes divines. Et c'est quand même un texte particulier qui nous ouvre quelque chose du mystère de ce qui se passe au sein de la Trinité de Dieu. Je ne sais pas si on prend la mesure de ça. Dieu qui fait l'effort de nous partager ce qu'il vit, avec le Fils, avec l'Esprit, comment ça marche. Deuxièmement, l'attitude de Dieu envers l'homme, et troisièmement, la révélation de Dieu dans sa plénitude. Voilà pourquoi l'apôtre peut dire, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Non pas une gloire qui provient de l'humanité qu'il a prise, tel que le beau et touchant ont été ses parents terrestres, mais une gloire qui provient de sa relation au sein des personnes divines. La gloire du Fils unique, une relation qui est goûtée dans la communion avec Dieu son Père. Voilà comment Jean, inspiré par l'Esprit Saint, veille sur la gloire de la personne de Christ. Voilà pourquoi aussi les anges rivalisent de concert de louange à la naissance du Sauveur. C'était l'autre texte que j'aurais pu prendre, mais ça commençait à faire beaucoup. Et vous vous souvenez, hein, ce concert des anges, on a réentendu ce texte hier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes, aux hommes qu'il aime. Voilà ce concert de louanges, parce qu'en fait, les anges, je crois, n'en reviennent pas. Ils trouvent incroyable que la gloire du Seigneur, qu'ils ont l'habitude de côtoyer, soit incarné dans un corps humain. Incroyable. La parole est devenue chair et aussi pour elle révèle ce que le cœur de Dieu recèle à l'égard de l'homme. Celui qui est devenu chair a demeuré au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Il est venu dans un caractère parfaitement adapté à l'homme. Et il est venu non pas pour demander quelque chose de l'homme, comme dans la loi. Il est venu pour donner. Il est venu pour apporter en grâce la bénédiction à des êtres qui ne la méritent pas. Et ça aussi, c'est incroyable. Voilà, il est venu apporter la grâce et la vérité, nous dit le texte. La pleine vérité. Ça aussi le fait de démasquer ce qui est faux. Alors tout ce que Moïse et les prophètes avaient affirmé était vrai, hein, mais ça n'était pas la pleine vérité, dans le sens plénitude, complet. Parce que la loi me déclare ce que je devrais être. Et en ce sens, c'est la réalité. Elle me dit ce que je devrais être, mais elle ne me dit pas ce que je suis. Christ a montré non pas ce que les choses devraient être, mais ce qu'elles sont, tout simplement. Christ me dit la vérité sur toute chose, mauvaise ou bonne. Alors, ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Mais on a besoin de l'entendre, et par-dessus tout, Christ me dit la vérité sur Dieu. Il était ici-bas non seulement pour manifester la grâce en lui-même, mais pour communiquer la grâce à d'autres. Et pour la communiquer en abondance, grâce sur grâce, nous dit le texte. Il y a un débordement là. La grâce qui est venue par Jésus-Christ apporte la bénédiction à l'homme selon ce qu'il est avec tous ses besoins. Et en même temps, elle manifeste pleinement la vérité de tout ce que Dieu est dans sa sainteté. Dieu, par Jésus-Christ, est pleinement révélé. Dans les jours de l'Ancien Testament, il y avait eu des révélations partielles de Dieu dans ses attributs, comme le Tout-Puissant, par exemple, ça revient souvent, ou l'Éternel. Nous n'avons, je crois, pas de révélation du cœur de Dieu avant la venue de Christ. Parce que nul homme n'est assez grand pour faire connaître Dieu. Seule une personne divine pouvait révéler une personne divine. Et c'est comme ça que Jean termine, hein. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, on l'a fait connaître. Il l'a révélé tel que lui le connaissait, c'est-à-dire parfaitement dans une intimité et une communion. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça vous fait, moi ça m'émeut beaucoup. Hein. Jean semble vouloir nous plonger au cœur du mystère de Noël, dans ce qu'il y a de plus paradoxal hein, finalement. Une nouvelle création, ce qui est le plus sublime et le plus signifiant, la parole par qui tout est venu à l'existence. Une parole toute puissante, incroyable, devient dans un bébé, couché dans une mangeoire, la réalité la plus basique. Trivial même qui soit, dans ce qui nous constitue comme être vivant, la chair, qui d'ailleurs de soi est incapable de parole, c'est quand même, je ne sais pas si c'est le mot de Dieu ça, mais la parole s'incarne dans un bébé qui n'est pas capable de parler. Voilà le paradoxe. Il y a dans ce qui se dévoile sous nos yeux une négation radicale. Celui qui était tout puissant devient le plus faible, le plus dépendant. Un bébé est absolument incapable de survivre tout seul. En tout cas, un bébé humain. Le plus signifiant devient insignifiant. Celui qui est Dieu s'anéantit et déjà, nous savons, alors que nous faisons mémoire de sa naissance, que ça sera pour mourir à la croix. C'est ce que nous a rappelé le texte de Philippiens tout à l'heure, que nous avons lu comme confession de foi. Voilà, c'est de là, dans ces ténèbres indépassables, que va briller pour le croyant la lumière. Cette lumière qui émane toujours, même aujourd'hui, du Sauveur, hein, qui est certes né dans une étable, mais qui a surtout été crucifié et qui est ressuscité. Voilà la vraie gloire de Noël. Et à nous tous qui avons reçu cette lumière, Dieu rappelle deux choses. Tout d'abord, nous devrions être émerveillés et abasourdis par le mystère de l'incarnation. La gloire du Christ. On ne devrait pas s'habituer à ça. Et ensuite, il nous appartient, nous aussi, de briller de cette lumière, de partager, de témoigner que c'est par amour pour Dieu que nous allons vers les autres. Amen. Thank you. continuer à en être émerveillé, à trouver ta grâce et ton amour incroyable. Donne-nous de continuer à laisser l'Esprit agir dans nos cœurs pour révéler ta vérité et nous conduire à toi. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans ta lumière, pour être nous aussi des porteurs de lumière et te ressembler chaque jour davantage. C'est notre prière.